avant, mesdames et messieurs, il est arrivé une anecdote immobilière des plus cocasses à notre amie Mme Beauchamp. Ouais. Raconte-nous donc ça.
Bon, ben, je dis depuis longtemps, je me cherche un chalet depuis longtemps dans les cantons de l'Est et l'agente d'immeuble avec laquelle je travaille habituellement est en congé de maternité. Donc, je me suis retrouvée sans agent d'immeuble. Ne m'envoyez pas des cartes de tout le monde. C'est correct, je vais prendre une petite pause, je vais attendre que le marché baisse. Mais on avait vu un chalet, moi et mon conjoint, qui nous intéressait et l'agent inscripteur. J'avais entendu de bonnes choses sur ce bureau-là et je me suis dit, ben, je vais aller visiter cette maison-là et en même temps, je vais leur faire part de la demande qu'ils pourraient magasiner pour moi, donc devenir un peu mes agents le temps que mon agente à moi revienne. Et finalement, bon, tout ça se passe bien. Je demande qu'on m'envoie les fiches. On me propose un autre chalet. Je demande qu'on m'envoie les fiches.
Parce que t'as quoi? T'as vu le chalet que t'avais dans le viseur?
J'ai vu le chalet. Ça nous intéressait finalement à moyen, mais on nous a dit qu'il y en a un autre sur le marché qu'on aimerait peut-être vous montrer. Je dis parfait. Il m'envoie les fiches et donc je copie sur un courriel. Et quelques minutes après, la patronne du bureau a répliqué à ce courriel-là en copiant tout le monde, donc moi aussi.
Sans savoir qu'elle t'écrivait?
Sans savoir qu'elle m'écrivait. Et elle a dit, cette cliente est gossante, elle fait des offres basses, faites attention.
Ben au moins, tu le sais.
Ouais, mais attends là, moi je suis une acheteuse, je suis pas une vendeuse, OK? Moi je ferais pas plaisir à un agent d'immeuble pour acheter une maison qui est surévaluée parce que le marché est en surchauffe. C'est un peu normal que je veuille faire des offres basses. Tu sais, je veux dire, je comprends là, qu'il y a un marché, mais à un moment donné, il m'a pas payé 450 000 pour une, je m'excuse, mais une chiotte qui est en train de tomber à terre.
L'as-tu gardé?
Fait que ben non.
Attends. OK, attends une seconde. Là, tu reçois ce message-là. Et tu sais que ça t'est pas destiné. Tu sais qu'elle a fait un reply all, répondre à tous, qui ne t'était pas destiné. Qu'est-ce que t'as fait?
Ben, le premier courriel que j'ai retourné, c'est « Bravo, merci de m'avoir copié. Vous n'êtes pas très professionnel. » Là, elle s'est rendue compte de sa faute. Elle s'est confondue en excuses. Puis elle me dit, mais écoute, je pensais que tu avais trouvé, t'as fait travailler très fort l'autre agent d'immeuble. Puis là, je lui ai répondu à peu près 3-4 paragraphes en lui disant, oui, l'autre agent d'immeuble a travaillé très fort. Mais étant donné que le marché est en croissance et devenu très, très fort, je n'ai pas été capable de trouver le chalet que je voulais. On avait acheté, on s'est retiré d'une offre parce que les fondations semblaient être toutes pourries. Fait que j'ai tout expliqué ça, mais j'ai expliqué ce que je viens de te dire. C'est que, écoute, moi, je suis une acheteuse. Je ne vais pas mettre 50 000 de plus sur une maison qui n'en vaut pas la peine parce que l'agent d'immeuble me dit de le faire.
Ouais, tu vas pas faire une offre élevée pour faire plaisir à l'agent.
Ben, voilà, tu sais, je veux dire, quand même. Là.
Et là, est-ce que tu es encore en affaire avec eux?
Non, on nous a rappelé le lendemain pour savoir si on voulait toujours visiter. J'en revenais pas, fait que j'ai dit que je passais un tour.
OK, on va parler de tout ça avec Georges Bardagy et bien d'autres sujets. Salut, Georges.
Bonjour, Patrick.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un répondre à tous aussi embarrassant?
Ça, je suis obligé de dire que ça m'est déjà arrivé, mais je pense pas, avec le nombre de courriels qu'on envoie, mais pas aussi embarrassant que celui-là. Effectivement, on est dans une conjoncture spéciale. Ça empêche pas que les courtiers immobiliers, leurs règles obligent à un devoir de réserve, puis beaucoup d'empathie pour les acheteurs qui essaient de trouver présentement une propriété, puis qui voient les prix augmenter, comme c'est le cas pour Catherine.
Georges, on parle de la forme de cette gaffe-là, mais sur le fond, est-ce que Catherine est réputée dans cette agence-là faire des offres qui sont basses? Mais je veux dire, l'acheteur veut toujours payer le moins cher possible, puis c'est tout à fait normal. D'un point de vue de courtier immobilier, est-ce que c'est objectivement gossant d'avoir à faire des offres basses?
Ben, pas du tout. L'acheteur a le droit de faire la promesse d'achat qui juge le bon prix pour cette propriété-là. Puis effectivement, il y a des maisons présentement qui se vendent à des prix tellement hauts à cause de la surchauffe, à cause du manque d'inventaire. Je pense pas que c'est la faute des courtiers, c'est le marché qui est comme ça. On dit qu'au Canada, présentement, il manque environ 2 millions de propriétés pour arriver à un marché équilibré. Donc là, c'est certain que ceux qui pensent voir le marché baisser, mais pour des maisons de campagne puis des chalets, d'ici 2 ans, je suis obligé de dire que c'est pas impossible qu'il y ait que ça soit un petit peu plus équilibré d'ici 2 ans, parce que ça coûte cher entretenir des deuxièmes maisons, puis les gens vont pouvoir peut-être commencer à voyager normalement dans le futur. Mais pour ce qui est de l'immobilier en général, tous ceux qui attendent que les prix baissent, faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup moins de demandes. donc moins de population qui a besoin de se loger, ce qui n'est pas le cas présentement.
Mais Georges, je reviens sur le marché des résidences secondaires, là. Les maisons de campagne, les chalets. Oui. Moi, j'ai eu un chalet, Georges. Ça n'a pas duré ben longtemps parce que j'ai eu l'impression que pour mes besoins, j'aurais pu creuser un trou, mettre de l'argent dedans, j'aurais perdu moins d'argent. Il y a plein de gens qui ont acheté des résidences secondaires pendant la pandémie. Est-ce que ces gens-là vont réaliser que ça coûte pas mal plus cher et c'est pas mal plus de troubles qu'ils pensaient?
Vous me faites peur, Patrick, mais j'ai fait la même chose. Acheter une maison de campagne en Estrie. J'ai des sueurs en vous parlant. Mais c'est pas faux. C'est vrai que ça coûte beaucoup de sous. Par contre, comme les gens ne pouvaient pas aller nulle part, ils ont pris le budget des voyages puis ils l'ont mis dans le chalet. Puis jusque-là, il y a une certaine logique. On a pu avoir un endroit pour s'évader un peu de l'effet de la pandémie, qu'on vivait moins bien en ville, mettons. Mais disons que je pense que déjà, la ville de Montréal est en train de renaître. Ça va beaucoup mieux. Il y a des activités, il y a des gens. Donc, moi, je sais pas à long terme ce que ça va donner, mais pour l'instant, on est encore dans un marché de surchauffe au niveau des chalets. Puis oui, ça coûte cher à entretenir. Puis oui, Catherine, faites bien d'acheter le bien qui vous convient pour le prix que vous jugez. Puis il n'y a aucun courtier qui a le droit de refuser une promesse d'achat. C'est sûr qu'un client qui fait visite 30 à 40 propriétés puis qui offre toujours en bas du prix alors qu'elles vendent toujours au-dessus du prix, à un moment donné, le courtier, lui, vend son temps. Fait que dans le fond, c'est comme s'il faisait une perte. Mais c'est leur devoir d'être représenter leur client comme il faut et d'écrire toutes les offres que vous avez envie de faire.
Mais le pire, c'est que j'ai jamais fait d'offre en dessous du prix.
Non, je sais, mais je disais ça. J'ai déjà eu des clients. Moi, j'ai des clients, ça fait 12 ans qu'ils attendent que le marché baisse. Puis forcément, chaque année, c'est de plus en plus frustrant pour eux de voir le marché aller dans l'autre sens.
Mais moi, ce qui m'étonne, là, c'est dans tout le magasinage que j'ai fait, là, c'est qu'à un moment donné, ça devenait presque agressif. On allait visiter, on avait fait une offre d'achat sur un chalet. Et, tu sais, c'était rendu, c'est sans garantie légale. C'était rendu, tu sais, on avait de la pression, là, parce que on a vu avec l'inspecteur que les fondations avaient un problème. On ne pouvait pas inspecter les fondations sans faire un trou dans le plancher. Tu sais, je vais pas acheter une maison puis me retrouver avec 100 000 piastres de fondation à faire sur une maison. Tu veux qu'elle soit quand même en état. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de surprises après avoir acheté des maisons secondaires tout croche, sans inspection, sans garantie légale, qui vont se retrouver avec des problèmes majeurs, puis ça va leur coûter drôlement plus cher.
Tout à fait. L'OACQ, présentement, a mis dans ses formulaires une obligation de divulguer, d'abord, aux acheteurs de faire une inspection en bâtiment, ce qui est une très bonne chose. Moi, je conseille tous mes vendeurs de faire une inspection pré-vente, qui est aussi une bonne chose, parce que là, la maison est déjà inspectée avant même de faire une promesse d'achat, donc ça évite tout le roller coaster émotif que l'acheteur doit vivre d'acheter une maison, de se voir y habiter, puis ensuite être obligé de se récuser. Même chose pour le vendeur qui perd sa vente. Donc, puis, juste vous dire, les courtiers immobiliers, c'est pas eux qui ont décidé de vendre sans garantie légale. Les clients vendeurs demandent à des amis, juristes, avocats, notaires, comment je fais pour pas avoir de troubles? Ben, là, ils disent, t'as juste à mettre, cette vente est faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais ça dit très bien ce que ça veut dire. C'est pas très marketing. Ça veut dire que c'est au risque et péril de l'acheteur. Ce qu'on oublie de dire, les juristes, aux clients vendeurs, c'est que ça représente normalement entre 5 et 8 de la valeur d'une maison d'acheter sans garantie. Donc, ça vient aussi avec un prix. Et ça, les gens sont pas toujours éclairés là-dessus lorsqu'ils décident de vendre sans garantie légale.
Georges, même dans un marché qui est en surchauffe comme ça et très à l'avantage des vendeurs, les vendeurs vont payer un prix en argent parce qu'ils vendent sans garantie légale?
Ben, ça dépend où on est rendu dans notre vie, mais c'est vrai que les clients les plus âgés disent, écoute, j'ai-tu besoin de troubles? J'ai entendu qu'un ami s'est fait poursuivre pour telle affaire. Ça a duré tant de mois. Je dis, écoute, au point où je suis rendu, là, vends ça sans garantie légale. Quand même qu'on laisse de l'argent. Moi, je veux pas de troubles. J'en ai des clients comme ça, Patrick.
Ben, l'autre facteur, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est le payer cash. Parce que ça aussi, à un moment donné, on avait fait des offres plus élevées que l'autre gang qui était contre nous. Puis là, à un moment donné, on n'a pas eu de maison. Écoute, je pense qu'on était comme à 25-30 000 piastres de plus. Puis on l'a pas eu parce que eux, dans leur demande, avaient écrit « payer cash ». Mais je me dis, tu sais, il va pas arriver avec une valise d'argent.
Non, faut faire attention. Lorsqu'on dit « payer cash », les gens, c'est un terme qui porte à confusion. Ça veut dire que les gens font une promesse d'achat sans condition d'obtenir un prêt hypothécaire. Ça veut pas dire qu'ils vont arriver avec une valise d'argent en billets, là. C'est des gens qui ont pas de conditions hypothécaires. Ils font la preuve qu'ils ont l'argent dans un compte de banque ou dans leur compte d'investissement. Et Et ça, ça vient remplir l'obligation du courtier immobilier de vérifier qu'au moment de la transaction, l'acheteur avait les liquidités pour faire cette transaction-là. Après ça, donc ils peuvent décider ensuite de prendre une hypothèque. Donc, ce que les acheteurs rusés font, qui ont des sous, des REER ou d'autres investissements, ils disent, voici, j'ai la preuve pour acheter la maison, mettons, qui coûte 500 000 $. Puis, une fois que la maison est achetée, j'ai gagné la surenchère ou peu importe. Là, avant de passer l'acte de vente dans 2 mois chez le notaire, ben, je vais aller chercher une hypothèque quand même. Donc, c'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient payer comptant, qu'ils vont payer comptant. Ils ont démontré qu'ils avaient le comptant puis que c'est pas, l'hypothèque n'est plus une condition.
Ben, c'est ça, la distinction. Ils ont perdu des sous. Ils ont perdu des sous carrément.
Oui, effectivement, mais c'est pour ça qu'on dit toujours aux acheteurs présentement, vu qu'on va être obligé de jouer du coude, ben, il faut s'assurer d'être préqualifié avant, de faire toutes ces vérifications-là financières avant. Ben, c'est toujours une bonne idée parce que, puis après ça, de faire une lettre de présentation pour montrer, parce qu'à prix égal, des fois, ces lettres-là fonctionnent, on arrive à charmer les vendeurs qui font affaire à, on joue sur leur corde sensible, puis des fois, ils décident de vendre à un client ou une cliente pour qui ils ont des atomes crochus.
Très intéressant. Merci, Georges Bardagy. À la prochaine.
C'est un plaisir. Bonne chance, Catherine.
Merci.
Au revoir.
Monsieur Bardagy. Et courtier immobilier, ben on a appris que Catherine a...
C'est une cheap, coudonc.
Une réputation d'être un peu cheap, mais quand on achète une propriété, c'est une très bonne idée. 18h16. Ben oui.